cette méditation sur le contentement, qui va aussi rejoindre la prédication, mais avant ça, je voudrais me remettre entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es un Dieu qui parle aujourd'hui encore. Merci pour ta vie et pour ce que nous avons entendu. Et nous voulons encore nous laisser conduire par toi. Dispose nos cœurs à entendre, à comprendre et puis à mettre en pratique. Pour la gloire de Jésus. Amen. Voilà une histoire que nous allons sur laquelle nous allons réfléchir ce matin et peut-être nous allons nous sentir concernés. Et ce qui est merveilleux avec la Bible, c'est que on se sent souvent concerné. Hein. Il n'y a pas que les bons côtés, il y a aussi les côtés un peu difficiles de l'humanité. Dans le livre des Nombres, il est inscrit cette histoire du verset 1 au verset 9 du chapitre 21. Alors un roi cananéen nommé Arad, eh bien, qui habitait dans le Negev, alors Negev ça veut dire désert en hébreu, hein, donc dans le désert, apprit qu'Israël venait par le chemin d'Atirim et il décida de combattre Israël et c'est ce qu'il fit et il fit des captifs. Alors Israël fit un vœu à l'Éternel, et dit, « Seigneur, si tu livres ce peuple entre mes mains, je vouerai ces villes à l'interdit. » L'Éternel écouta la voix d'Israël et livra les Cananéens. On les voit à l'interdit, eux et leurs villes, et on nomma ce lieu Horma, qui veut dire interdit en hébreu. Ils partirent donc de la montagne de Hor par le chemin de la mer des gens pour contourner le pays des Dômes. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions là dans le désert ? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. » Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel, afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Et quiconque aura été mordu, le contemplera, eh bien sauvera, conservera sa vie. » Alors Moïse fit un serpent de bronze ou d'airain et le plaça sur une perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, eh bien il conservait la vie. Voilà un texte qui nous met à l'aise, hein? Le peuple d'Israël a vraiment connu ce que rarement un peuple a connu. La main forte et puissante de Dieu dans leur vie. C'était vraiment un peuple où on pouvait dire « Dieu est avec eux, Dieu est au milieu d'eux ». La sortie d'Égypte a été même reconnue par les habitants et les nations voisines comme l'œuvre de Dieu lui-même. Et ils avaient dans le désert eh bien, eu une vie de nomades. Alors, ce texte que nous venons de lire n'est pas au début de l'histoire où ils viennent de sortir. On aurait pu le comprendre. C'est à la fin de cette période. Ils sont à la porte de la terre promise. Alors on peut penser que dans ces tentes, sous ces tentes, eh bien, les gens parlaient de ce qu'ils allaient obtenir, le meilleur qui reste à venir. L'emplacement de leur maison, les arbres, les fruits, les sources. Et puis, dans ces tentes, on pouvait entendre peut-être des voix qui disaient « Dieu va nous donner tout cela ». Ils étaient à la fin de leur périple, à la fin de leur combat, on pourrait dire. Dieu va accomplir enfin la promesse qu'il avait faite à Abraham, 400 ans avant. Et ce qui est remarquable avec ce peuple, c'est que c'est un peuple invincible. Ça, c'est extraordinaire. Au chapitre 21 que nous venons de lire, eh bien, nous voyons qu'un roi, Arad, hein, eh bien, a décidé de combattre Israël. La meilleure défense, c'est l'attaque. Alors, je ne sais pas si on peut s'imaginer, à peu près 2,5 millions de personnes dans le désert, ça doit faire flipper quand même, hein. Ça rôde, ça tourne, oh là là, je pense que ce roi a dû se sentir mal à l'aise, il a dû se sentir menacé. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il attaque. Et là, évidemment, il va s'en prendre au plus faible. Il va attaquer par le point faible, l'arrière. Et Israël, eh bien, se trouve dans la détresse. Que fait Israël? Eh bien, dans la détresse, il fait un vœu à l'Éternel. Nous voulons reprendre ce que l'ennemi nous a donné. Et si nous allons vaincre l'ennemi, eh bien, tout cela, tout ce que nous avons pris de l'ennemi, nous le rendrons à Dieu. Ça, c'est cela l'interdit. Hein ? Nous oublions parfois que les difficultés par lesquelles nous passons, eh bien, n'ont qu'un temps. Tout à l'heure, Lynn nous a parlé de la Covid et du blocage et des situations dans lesquelles ça nous met. Mais ce n'est qu'un temps. Même le méchant, s'il domine, il ne domine qu'un temps. L'homme n'est qu'un souffle. Ne l'oublions pas. Et le Seigneur nous le rappelle. Et ce qui est merveilleux, c'est que Israël, eh bien, va obtenir gain de cause. Dieu va lui accorder la victoire sur cet ennemi, et une victoire, on allait dire, haut la main. Ils ont véritablement obtenu une victoire. Mais il reste un problème. C'est que ils avaient demandé à passer par le pays d'Édom, et voilà qu'ils doivent rebrousser de 50 kilomètres pour faire le contournement. Et les problèmes commencent ici. Au chapitre 20, il est écrit que Israël a demandé à Édom la permission de passer sans absolument rien toucher. Édom qui est un frère, hein, enfin un frère, un cousin éloigné, hein, c'est le frère de Jacob. Hein. Et voilà qu'ils n'ont pas été compris. Et Édom a dit, donc Israël dit, je voudrais passer par ton pays, nous ne passerons ni dans tes champs, ni dans tes vignes, nous ne boirons pas l'eau des puits. Nous suivrons la voie royale, qui est le chemin. Voilà, c'est un National 7 hein, de l'époque, et sans nous détourner ni à droite ni à gauche, jusqu'à ce que nous ayons dépassé ton territoire. La réponse d'Édom, tu ne passeras pas chez moi, sinon je sortirai à ta rencontre avec l'épée. Et croyez-moi, Édom, ça rigolait pas. Ils étaient beaucoup plus armés, beaucoup plus organisés qu'Israël. Et là, c'est le vase qui a fait déborder la goutte. Ou plutôt la goutte qui a fait déborder le vase. On sent un peuple prêt à combattre. On sent un peuple prêt à aller de l'avant. Mais voilà qu'ici, il y a un blocage. Alors, un roi les attaque, donc c'est au chapitre 21, Arad. Ils ont le dessus et ils doivent quand même contourner Édom. Ah, on est souvent pris par des contretemps, par des imprévus, par des frustrations. Et commencent les pourquoi. On avait préparé cela. Et pourquoi? On s'était organisé. Mais pourquoi? On avait des projets. Mais pourquoi? Non seulement Édom a refusé, mais en plus il nous menace. Pourquoi Dieu a-t-il voulu cela? Alors voilà qu'on était parti plein d'enthousiasme. Hein? Il y avait de la lumière dans les yeux, plein de rêves dans le cœur. Et là, c'est la grande déception. Hein? La foi et l'enthousiasme. Alors c'est bien d'avoir l'enthousiasme. J'aime bien les gens enthousiastes, vous savez, ils nous reboostent aussi. Hein. Mais pourtant, attention que l'enthousiasme ne devienne pas un sentiment qui prenne autorité sur notre vie spirituelle. C'était le cas d'Israël. Leur enthousiasme était leur moteur. C'est bien. Mais Dieu nous dit que ça doit être la foi qui doit être notre moteur. L'enthousiasme et la joie découlent de cette foi, et non pas le contraire. Lorsque nous sommes trop enthousiastes vis-à-vis d'un ennemi, Sans la foi, nous perdons la victoire. Vous vous rappelez l'histoire de qui va se passer par la suite, hein? Lorsque la troupe de Josué a dit face à Haï, écoutez, on a mis une tannée à Jéricho. Ah, quand même, Jéricho, c'était la Ligue des Champions, hein. Une équipe de second rang comme Haï, mais on va se les manger. C'est ce qui arrive souvent aux équipes de foot, hein. No comment pour nos équipes qu'on supporte. Eh oui, voilà qu'une petite équipe de derrière les fagots leur met une raclée. L'enthousiasme a tellement pris le dessus qu'on en a oublié la foi. Sans la foi, l'enthousiasme est un trompe-l'œil. Le problème de l'enthousiasme, c'est que quand il s'en va, ben on est à plat, découragé, on se sent abandonné. Et lorsqu'arrive une épreuve, ben on a du mal à remonter. C'est l'épître de Jacques qui nous dit « Mes frères, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves que vous pouvez rencontrer. » Alléluia. Ouais. Oui, même le bébé est d'accord. Sachant que la mise à l'épreuve de votre foi, et c'est là la question, produit la patience. C'est la foi dont il est question. C'est elle qui va produire la joie et l'enthousiasme et l'endurance face à l'épreuve. Alors Israël contourne Edom, 40 kilomètres. Ils doivent rebrousser chemin, revoir leur plan. Ils doivent repasser par le désert. Et là, mes chers frères et sœurs, il s'agit des enfants de Dieu. Il ne s'agit pas de la génération qui était rebelle, celle qui était incrédule. Et devant la déception, qu'est-ce qu'ils font, ces enfants de Dieu, dans le désert? Eh bien, ils parlent. Ils parlent contre Dieu et ils parlent contre Moïse. Le peuple s'impatienta en route et il parla contre Moïse, contre Dieu d'abord et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Mais j'allais presque dire, mais qu'est-ce que vous y connaissez à l'Égypte? Alors moi, si j'avais été Moïse, là, j'aurais pété un câble, hein. Qu'est-ce que vous connaissez à l'Égypte, vous, génération qui n'avez même pas connu ce que vos pères ont connu, seulement ce qu'ils vous ont raconté? Tout est merveilleux quand les gens nous racontent le passé. Mais voilà que Moïse est bien affaibli, puisque Aaron est mort, il est tout seul. Et il porte le chapeau et la responsabilité de tout ce qui ne va pas. Pourtant, pendant 40 ans, et ce peuple aussi, a connu la manne, ils ont connu l'eau, ils ont connu la fidélité de Dieu, ils ont voulu de la viande, ils ont eu de la viande, ils ont été protégés. Mais c'est à la fin de l'errance, où il restait encore quelques kilomètres à franchir, que l'impatience a pris la place. Et ils ont été, comme le dit le texte ici, « Car il n'y a point de Dieu, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain misérable. » Alors j'ai été interpellé par le sentiment que ça a pu produire, le dégoût de ce que Dieu donne. Est-ce possible que nous soyons dégoûtés de ce que Dieu nous donne? Ça va dans le sens du mécontentement et ça va un peu plus loin aussi. Les miracles oubliés, la main de Dieu fidèle, dégoûté Seigneur de ce que tu nous donnes. Est-ce possible? La réponse est oui. Si le peuple d'Israël a connu cela, nous qui sommes faits de la même pâte, évidemment qu'on peut l'être. Et là, d'un seul coup, d'un seul, sans prévenir, eh bien, des serpents sortent, dont ne sait où, et ils les mordent. Alors, le texte nous dit que Dieu a envoyé des serpents. Hein? C'est pas lui qui a pris des serpents et les a jetés sur le peuple. Hein? Je pense avec d'autres commentateurs, très sérieusement, que Dieu a dit, vous voulez vraiment ça? Eh bien, moi, je vais lever ma main pour que vous puissiez un peu goûter ce qui vous attend dans le désert si moi, j'étais pas là. Je comprends comme ça. Alors, il y a un témoignage de deux archéologues qui ont écrit ceci. Donc, après leur fouille et leur séjour dans le désert, ils écrivent, c'est le soir, le moment du repos. Tout à coup, quelqu'un s'écrie, un serpent. Et tout le monde s'éveille. Chacun grimpe sur une caisse ou sur un ballot et attend. Les vipères cornues arrivent par douzaines. On ne sait d'où elles sortent. Et pourtant, j'avais creusé, dessiné, fouillé au milieu des ruines sans voir un seul séras, c'est-à-dire des vipères cornues. La nuit était-elle venue ? Le feu était-il allumé ? Que ces horribles bêtes arrivaient de tous côtés, rampant et dardant leur langue, il ne reste qu'à chercher à les saisir d'une pince de fer et à les jeter dans le feu. C'est une réalité du désert. Ces serpents brûlants qui sont sortis et qui se sont attaqués au peuple. Avez-vous remarqué que lorsqu'ils ont été mordus, ils commençaient à mourir, ils ont eu une réaction, ils ont compris que cela venait à cause de leur désobéissance. Ils n'ont pas dit c'est un accident de route, hein. Ils ont dit, ils ont fait le lien dans leur tête. Vous savez comme l'apôtre Paul qui nous dit, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Le lien de la désobéissance et du murmure, entre ce que leur cœur a sorti et ce que leur corps a ressenti. On fait bien parfois de s'arrêter, de s'examiner. Parce que souvent, la faute, elle est aux autres. C'est jamais nous. Hein? Vous savez, quand on perd un match, c'est jamais nous. Le terrain était mouillé. Ouais, mais quand même, non, mais on n'avait pas les bons crampons. Vous savez, les Marseillais, quand ils perdent, c'est toujours... hein? Voilà. Et en fait, c'est l'équipe adverse qui était plus forte. On peut l'admettre, non? C'est toujours la faute aux autres, jamais la nôtre. Ou alors, on se trouve des circonstances bien atténuantes. Voilà que la morsure de ces serpents, eh bien, commence à causer des tourments, commence à créer une vraie panique dans le camp. Comment réagissons-nous, nous-mêmes, quand autour de nous la panique commence à se faire? Et surtout si cette panique et ce tourment est le fruit de notre désobéissance. Alors voilà que ce peuple mordu a compris qu'il y avait dans leur attitude quelque chose de plus grave. Il y avait une séparation de leur relation avec Dieu. C'est pas tant le problème des serpents qui étaient là. C'est pas tant le problème du désert. C'est le fait qu'ils avaient rompu cette relation avec ce Dieu qui les protégeait. Car il s'agit bien de cela. On ne peut pas dire à quelqu'un qui nous aime, « Ah, je suis dégoûté de ce que tu me donnes. » Ça crée une frustration, hein. Pour ceux qui l'ont connu, je ne sais pas, mais en tout cas, moi, je ne le vivrais pas bien. Hein. Le froid dans la relation a été instauré. Ah, qu'ils sont tristes, ces enfants d'Israël, dans le désert, n'est-ce pas? À deux pas de la terre promise, à la porte de ce que Dieu allait leur donner, et ils ont regardé à l'Égypte, à ce qu'ils avaient quitté il y a tellement longtemps, comme Agar qui a regardé à l'Égypte, qui a fui à l'Égypte, comme Lot, la femme de Lot, qui a regardé en arrière. Nos âmes aussi, lorsqu'elles sont fatiguées, elles ont tendance, certainement, à dire à Dieu, mais le pain que tu me donnes, ça me satisfait plus. Et ce pain, c'est aussi la parole de Dieu. Hein. On ouvre la parole de Dieu et ça ne nous satisfait plus. On devrait prier Dieu pour avoir une faim et une soif de sa parole. Et lorsqu'on est dégoûté, c'est pas tellement bon signe pour notre santé spirituelle. Alors, ce peuple d'Israël, c'est aussi nous. Ce n'est qu'un peuple qui allait prendre possession de la terre promise, mais pas n'importe quel peuple, comme l'assemblée chrétienne. Alors voilà que, il est dit ici, une véritable confession de la part du peuple. Nous avons péché. Ils ont compris. Ils ont percuté. Ils ont vu que là, il n'y avait plus de solution. Nous avons péché contre Dieu et contre toi. Vous savez, comme le fils prodigue quand il revient, qu'est-ce qu'il dit au père? J'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Comme David qui dit, tant que j'ai gardé les choses dans mon cœur que je ne l'ai pas dit, mes os se consumaient. Voilà qui est juste. Voilà qui est vrai. Après avoir constaté le péché, il avoue publiquement. Ah, ça demande beaucoup d'humilité que de demander pardon. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on a offensé quelqu'un, faut refaire retour, le chemin de retour, venir le voir et dire, tu sais, les mots sortent pas, hein. Qu'est-ce qu'il y a? On tourne autour du pont. Ben voilà, j'ai mal agi. Ah, c'est sorti. Hein? Oui, j'ai mal agi. Eh oui, c'est difficile de s'humilier. Ils ont besoin de Dieu. Nous avons besoin de Dieu. C'est le grand combat de notre cœur. Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de Dieu ou pas? Et c'est vrai que ça crée des tensions. Est-ce que je reconnais que j'ai besoin de réinstaurer une relation de pardon? Et ça, c'est le grand combat que des couples peuvent connaître. Peut-être les parents avec les enfants avec les parents, même dans l'église. J'ai besoin que l'on rétablisse la relation. Alors, ne doutons pas, ce qui est bien dans ce texte, c'est qu'il y a des douleurs qui mènent à la bénédiction. Et parfois, le Seigneur nous laisse passer par ce creuset pour que nous comprenions. Imaginez Dieu qui dirait, « Oh, ben ça va, je comprends que vous êtes un peu fatigué, on va se reposer, voilà. » Hein ? Israël n'aurait rien appris, nous aussi. Alors, voilà que la réponse de Dieu, eh bien, se fait sans tarder. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et contemplera, conservera la vie. » Voilà l'antidote de Dieu. Quel est-il cet antidote? Eh bien, l'antidote de Dieu, c'est qu'il est encore là. Dieu dit « Je suis là ». Vous rappelez comment Dieu s'est-il révélé à Moïse? Exode 3, verset 14. Je suis celui qui suis. Comme son nom l'indique, il est là, je suis. Pour les peuples païens, le Dieu d'Israël, c'était un Dieu un de plus que d'autres, n'est-ce pas? Mais pour le peuple d'Israël, il est je suis. Il est ce Dieu qui pouvait pourvoir à leur manque. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Tout-Puissant, le Dieu qui me suis engagé avec vous. Le « je suis » est celui qui peut pourvoir à mes besoins. À cet instant même, lorsqu'ils sont mordus et qu'ils périssent, Dieu dit « je suis accessible ». Est-ce que tu es troublé? Dieu te dit « je suis ta paix ». Est-ce que tu es découragé? Il dit « Je suis ton réconfort ». Es-tu perdu? Il dit « Je suis avec toi ». Es-tu fatigué? Il dit « Je suis ta force ». Manques-tu de sagesse? Il dit « Je suis ton guide, ta sagesse ». Quelqu'un a dit « De même que l'eau cherche toujours le point le plus bas pour s'y diverser, ainsi l'Éternel cherche l'indigence de l'homme pour la combler. Je suis... se tient près du cœur où règne la tristesse, la souffrance, la confusion, le désarroi, l'oppression. Il est prêt à changer en bénédiction la misère de l'homme, pour peu que celui-ci le laisse agir. Quiconque aura été mordu par ce serpent et le regardera, aura la vie sauve. Et ce qui est surprenant, c'est que c'est exactement cet exemple que Jésus va prendre avec Nicodème. Vous vous rappelez? Il dira à Nicodème, comme Moïse a élevé le serpent. Nicodème le sait, c'est un docteur de la loi, il enseigne cette histoire. À l'école du dimanche, il a appris, enfin, du Shabbat pour lui. Il a appris ça depuis tout petit. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que Jésus explique, la réalisation de ce serpent qui a été élevé. La venue de Jésus et la croix de Jésus eh bien, ont été nécessaires à cause de notre conséquence destructrice et conséquence de nos péchés. Ils se sont rebellés comme l'homme se rebelle, comme tu te rebelles, comme je me rebelle. Ils ont été mordus. Et Dieu a dit à Moïse, voici ce que tu diras de faire aux enfants d'Israël. Oui, Christ est mort pour que nous ayons la vie. Quiconque aura été mordu et regardera. Imaginez ces familles qui sont là en train de périr. Et il y en a un qui dit quelque chose, il faut seulement regarder. Je ne sais pas si c'est un bon vaccin pour le coronavirus, cette histoire. Hein. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que pour nos péchés, c'est le meilleur des vaccins. Regarde à la croix. J'imagine dans ces familles ou ces couples, regarde. Et quelqu'un qui dit non, je ne veux pas regarder. C'est tellement ahurissant. Ce que Dieu fait est bizarre. La croix est une folie. Regarde la croix, mais c'est une folie. Et pourtant, c'est là qu'il faut regarder. Et on voyait peut-être certainement ceux qui ont été guéris, des visages blancs et secs, eh bien, reprendre de la couleur et recommencer à vivre. Oui, le mal est en nous, certainement, mais la guérison est sur la croix, parce que Jésus l'a porté. Je crois que le plus grand mal de ce monde, de cette humanité, c'est pas les morsures, hein, c'est pas les conséquences de ce péché. C'est des choses existent malheureusement autour de nous, c'est pas se sentir mourir. Je pense que le plus grand mal de cette humanité, c'est de refuser de regarder au salut de Dieu. Combien savent-ils cela et hésitent encore? Alors pourquoi regarder? Pourquoi Dieu dit-il « regarde » Eh bien parce que le regard, c'est ce qui est le plus simple à faire, n'est-ce pas? Regarder, c'est instinctif. Tout le monde regarde. Mais attention, tout le monde ne regarde pas dans le bon sens. Nous regardons là où il y a pour nous un intérêt. C'est comme la foi, tout le monde croit en quelque chose. Mais notre foi, notre confiance, eh bien, va se porter là où nous portons intérêt. La Bible dit que Christ est devenu péché, il est devenu ce serpent. Il a pris sur lui ce qui nous détruisait. Alors nous, on aurait voulu autre chose pour être sauvés. Faire des efforts, des œuvres, mériter quelque chose. Quelqu'un a dit avec sagesse, quand nous voulons être autre chose que ce que Dieu veut, nous voulons en réalité ce qui ne nous rendra pas heureux. Quand nous voulons être autre chose que ce que Dieu veut, nous voulons être en réalité ce qui nous rendra pas heureux. Et voilà ce que Dieu veut. Dieu veut nous sauver. Non seulement nous sauver par la conversion, parce que nous nous sommes convertis, mais il veut nous sauver en disant, tu as encore des choses à accomplir, il y a encore des victoires pour toi. Peut-être en tant que chrétien, on est à plat, on ne peut plus avancer. Il y a cette main tendue de Dieu. Croire à l'efficacité de son œuvre. Alors aujourd'hui, on est dimanche, tout le monde le sait. Je vous invite peut-être cet après-midi à relire ce chapitre 21 et voir comment Dieu va sortir ce peuple de cet épisode de serpent ardent et brûlant, de ce salut donné, et comment il va continuer à obtenir des victoires, chanter des cantiques à sa gloire et élever son nom. Parce que le secret d'une vie de victoire, c'est de rester dans cette présence de Dieu que la croix nous permet. Alors, saisis la main du Seigneur. Ne reste pas à l'arrêt. Reprends ta route si tu as besoin que le Seigneur te donne un nouvel élan. Ne reste pas à terre. Lui, il est prêt à s'arrêter, d'accord, mais il est prêt à ce que tu continues, à s'arrêter un moment. Et le Seigneur dit, regarde-moi et fais-moi confiance, car je suis celui dont tu as besoin. Je vous invite à nous incliner et à prier. Seigneur notre Dieu, combien cela peut nous paraître surprenant de voir une telle attitude d'un peuple qui a connu tellement de merveilles dans sa vie, tellement d'actions de ta part. Et pourtant, Seigneur, nous aussi dans notre vie, nous avons connu tes interventions. Et pourtant, nous sommes tellement promptes à oublier, à être dans le mécontentement, à être même dans la revendication. Seigneur, merci pour cette main tendue. Et je te prie pour celles et ceux qui, peut-être ce matin, ont besoin de quelque chose de particulier de ta part. d'un réconfort, d'une réponse, d'une main posée sur leur épaule. Seigneur, tu es celui qui peut apporter la paix. Tu es celui qui peut nous renouveler dans nos forces. Celui qui est prêt à nous accorder ta sagesse. Donne-nous de saisir ta personne pleinement et de nous laisser conduire par toi. Merci parce qu'il n'y a pas seulement la mort à la croix qui marque notre chemin. Il y a aussi cette victoire par la résurrection qui nous permet d'aller de l'avant. Que nous puissions aller de l'avant, Seigneur, pour ta gloire, et accomplir la conquête d'un pays promis que tu nous as accordé. Que tout cela, Seigneur, se fasse pour ta gloire. Amen. Voilà, je n'ai pas mis de photo de serpent, je me suis dit, il y en a peut-être qui craignent.